des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale en direct du Marathon des mots à Toulouse, placée cette année sous le signe de l'Afrique, de l'Africa Nova même. L'occasion pour nous de confronter deux voix importantes, très importantes de la littérature contemporaine, deux voix libres et uniques, mais souvent ramenées à des catégories comme littérature noire ou littérature francophone. Ces deux voix, ce sont celles d'Alain Mabankou et de Dany Laferrière. Bonjour Dany Laferrière. Vous êtes en face de moi et à votre droite, Alain Mabankou, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous vous connaissez bien, je crois, depuis plus de 20 ans. Alain a une phrase étonnante, d'ailleurs, au sujet de cette amitié. « Dany et moi, c'est l'amitié du paralytique et de l'aveugle. » Alors, j'ouvre les yeux, je vous vois et je comprends pas où est le paralytique et où est l'aveugle.
Je pense que c'est cette faculté que nous avons l'un et l'autre de pouvoir à la fois jouer le rôle du paralytique et de l'aveugle. J'ai pique cette formule à la fable de Florian, parce que si vous avez une amitié du paralytique et de l'aveugle, il y a l'un qui marche pour l'autre et l'autre qui voit pour l'un.
Bon, alors, ça c'est Alain Mabankou qui parlait, on va entendre Dany Laferrière, parce qu'il va pas aussi parler pour vous. Qui est celui qui marche pour l'autre?
Oui, totalement, il parle pour moi. Et dans cette fable, oui, tout à fait, on ne sait plus qui est paralytique, qui est aveugle. Naturellement, on interchange selon les situations. Il faut, enfin, on peut tout simplement penser que il y a un repos, il y a une immobilité possible, et puis il y a ce qu'on appelle la vision, celui qui voit loin, et bien on alterne.
C'est pas mal. Qu'est-ce qui vous a rapproché tous les deux? Est-ce que le fait d'être ramené sans cesse à ces catégories qu'on a évoquées a été un facteur décisif ou pas du tout?
Mais il y a une nouvelle catégorie maintenant.
Ils parlent ensemble, c'est génial.
Oui,
on parle ensemble.
Il y a une nouvelle catégorie maintenant, c'est l'amitié. Vous savez, c'est très difficile. Hein, ça prend des années avant de changer comme ça les stigmates, si l'on peut dire, ou les tags sociaux. Et il faut le travailler. Et je me souviens, j'avais commencé à écrire avec des livres un peu heurtés, urbains et un peu un cocktail fort, comme Comment faire l'amour avec un ex-sens fatigué, Cette grenade dans la main du jeune nègre, qui se sont retrouvés d'ailleurs dans ces mythologies américaines. Et on m'a tout de suite défini comme un écrivain américain, un écrivain dur, un écrivain d'une certaine violence sociale. Et quand j'ai écrit L'odeur du café, beaucoup de gens ont refusé cette manière-là, disant que non, ils ne me retrouvaient pas là-dedans. Et d'autres qui m'aimaient bien, le fils à sa grand-mère, et refusaient de croire que c'était le même obsédé sexuel qui était dans Comment faire l'amour avec un ex-sens fatigué. Donc, afin de régler ce problème, j'ai dû réunir tous ces livres sous un seul vocable, une autobiographie américaine. Et c'est ce que nous faisons, nous aussi, afin d'éliminer un peu tous ces vocables-là, et on est en train de militer pour l'amitié.
C'est bien. Et Alain Mabankou, alors qu'est-ce qui vous a rapproché de Dany Laferrière?
Je pense aussi que ce qui nous a rapproché, c'est l'idée qu'on se fait de la littérature, l'absence de cloisonnement de cette littérature, le refus de la définition géographique justement de cette littérature. Disons que dans les années 90, alors que je croisais beaucoup d'écrivains africains, et non des moindres, qui avaient pignon sur rue, ils avaient toujours une conception très nationale de la littérature, voire même continentale de la littérature.
Vous pensez à qui, Alain?
Je pense que j'ai croisé à cette époque, que ce soit du côté des Mongo Betty, que ce soit du côté des écrivains Jean-Marie Adjafi de la Côte d'Ivoire. Ils avaient ce nationalisme et cet africanisme qui était certes louable, mais il y avait à côté cette littérature qui appelait à ouvrir les fenêtres. L'universalité ne se définissait plus par le contentement nombrilique de son territoire, mais ça devenait en général quelque chose qui allait ailleurs. Donc Dany Laferrière était en 1993 le premier écrivain qui allait m'ouvrir les portes et me dire que on peut avoir la même couleur de peau que moi. On peut revendiquer une Afrique, mais il faut rajouter quelque chose parce que une littérature qui n'a pas d'elle ne peut pas s'envoler pendant longtemps.
Et c'est bien dit. Alors, Daniela Ferrière, vous êtes née à Port-au-Prince, Haïti, mais vous prétendez écrivain japonais. C'était même le titre d'un de vos livres.
Hein, c'est ça, oui, toujours le goût de devenir une cible mobile, de ne pas se faire épingler et par les gens, parce que j'ai pas compris le fait qu'on n'ait pas compris cette chose si banale et si simple, et qu'on écrit comme on lit pour être ailleurs. Et pour devenir quelqu'un d'autre, le temps de cette lecture ou de cette écriture. Donc, pour moi, j'avais qualifié d'injure géographique cette idée toujours d'épingler l'écrivain et sur le lieu d'où il vient. J'écris précisément pour quitter ce lieu. Je lis pour quitter ce lieu. Quand je lis un écrivain, c'est pour partir avec lui chez lui, sur les routes.
En même temps, on reste un natif natal, comme le dit un des écrivains que vous aimez beaucoup, Romain.
Oui, Jacques Roumain. Il a dit, non, mais bien sûr, le lieu est incontournable. Glissant l'a dit, c'est très, très bien, mais la question n'est pas là. Et si je laisse les jupes de ma mère et que je prends la grande route, ça ne veut pas dire que je l'ai oublié. Au contraire. Et c'est ainsi que j'ai défini l'identité, d'ailleurs, comme une bicyclette. Quand vous montez sur une bicyclette, si vous regardez là-haut, eh bien, vous allez tomber. Il faut regarder devant, il faut regarder l'horizon.
Alors, donc, écrivain japonais, mais vous appartenez de surcroît à ce que Jules Renard appelait le commun des immortels, puisque l'Académie française vous a accueilli sous la coupole en mai 2015, au fauteuil de Montesquieu. L'Académie française s'est jetée sur toi comme la pauvreté sur le monde, hein, vous a d'ailleurs dit Jean d'Ormesson le jour de la remise de votre épée. Alors, comment ça s'y passe? Juste un petit mot là-dessus. Pour l'auteur de Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, au sein de cette vénérable institution. C'est pas trop le genre de beauté, a priori.
Eh bien, vous savez, c'est une question de génération. Et j'ai remarqué, quand on commence à regarder les autres, on est toujours très jeune, on les admire, et on oublie qu'ils ont été jeunes aussi. Et j'ai dû dire à une radio suisse que les gens qui sont à l'Académie française, c'est pas les mêmes depuis 1635. Et que même René de Rubaldia, qui a aujourd'hui près de 98 ans, fut un jeune homme de 16 ans à un moment donné, et à chaque fois que je croise quelqu'un, il me dit, est-ce que vous allez secouer l'Académie? Si c'est une vieille dame, elle va mourir d'un coup. Elle va mourir d'un coup. C'est-à-dire, il faut pas secouer les gens. Qu'est-ce que c'est que cette manière? Et tout le monde a été jeune et tout le monde peut rester jeune. Et Cocteau l'a bien dit, j'ai mis beaucoup de temps à devenir jeune. Donc on peut l'être. Au contraire même, je rencontre même beaucoup de jeunes gens et de jeunes femmes à l'Académie précisément parce qu'ils se sont un peu délestés et de tous ces poids sociaux et quotidiens et tout cela. Ils ont atteint un âge où l'œuvre est derrière presque, et on cause le jeudi entre 3h et 4h30.
Alors, c'est un jeune homme vert donc que nous accueillons, et deux fois vert, hein, l'Académie, mais de l'autre côté, la jeunesse, car vous semblez, Daniela Ferrière, vouloir retrouver votre jeunesse, votre sève originelle en publiant aujourd'hui sous le titre donc Mythologie américaine chez Grasset et sous le sous-titre Roman de la Remington 22, la republication en un volume, vous en parliez, de vos tout premiers romans parmi lesquels Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer ou Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit. Il y a aussi un inédit, Truman Capote au Parc Hôtel. Quel sens, Daniela Ferrière, vous donnez à cette republication qui n'est pas un livre de mémoire, mais un livre qui constitue un peu une partie de votre mémoire d'écrivain et même de la mémoire du lecteur de la Ferrière, celui qui vous a découvert il y a bien longtemps?
Oui, l'étonnement d'abord, je n'ai pas beaucoup changé par le style, on le voit toujours, la description, le regard. Il y avait, disons, la posture nord-américaine qui était dans ses premiers livres, que j'ai changé après pour une posture, si je peux dire, caribéenne, enfin, l'angle de tir, si l'on peut dire. Mais tout le reste me semble pareil. Et ce premier roman pourrait être écrit hier encore. Et d'ailleurs, je crois que le roman le plus naïf, le petit texte naïf qui introduit le livre, semble avoir été écrit vers l'âge de 20 ans, alors qu'il a été écrit l'année dernière. Pour vous montrer que... souvent, les gens disent ça, et même des éditeurs. Et c'est quoi votre dernier livre? Comme s'il y avait un lien entre le premier et le dernier. Comme si le dernier né était le meilleur, le plus frais, le plus juste, le plus informé, le plus vaste. Mais si c'est vraiment des livres, je pense pas que l'âge et le temps puissent avoir une
mais néanmoins, vous vouliez les rendre à nouveau accessibles pour certains, en fait.
Oui, oui, mais c'est un triomphe aussi. C'est ça. C'est-à-dire le triomphe de ces petits romans et qui étaient publiés, dont on se moquait légèrement au tout début, Comment faire l'amour, il y a que le titre qui vaut quelque chose. Et voilà que 30 ans plus tard, ce même livre reparaît en grand format et dans une maison d'édition honorable. Et donc ça a été, pour moi, c'était extraordinaire. Et d'autant plus que si on lit attentivement ce roman, on verra, je l'ai dit dans le livre, que ce livre restera.
Parce que c'était pas honorable avant?
C'était pas
honorable. Vous avez parlé d'une maison honorable. Mais avant aussi, c'était une petite maison d'édition honorable.
Ah non, je voulais dire, il y en a plein, ils sont tous honorables. Mais je voulais simplement dire que c'est pas facile de se faire republier 30 ans plus tard en grand format. Et si on n'a pas fait à compte d'auteur, et dans une maison d'édition comme Grasset, et un livre qui a été publié sans cesse, en poche, et un peu partout. Donc généralement, ils font pas ce retour-là. Ils passent du grand format au poche, et non c'est du bien. Poche au grand format.
Retour au pays natal, littérairement parlant.
Voilà.
Alain Mabankou, vous êtes né à Pointe-Noire. Hein. Pardon, je rappelle l'origine, mais c'est pour mieux la congédier. Bien on sûr, va la congédier avec vous. Vous définissez d'ailleurs comme un écrivain congolo-français. Vous êtes l'auteur de mémoire du Porc Épic, prix Renaudot 2006. Vous êtes également professeur à la prestigieuse UCLA, l'Université de Californie, et désormais au Collège de France, dont vous occupez la chaire de création artistique et littéraire. Vous êtes le premier écrivain, d'ailleurs. Les gens attendraient que je dise le premier écrivain noir. Non, le premier écrivain à occuper. Il n'y a jamais eu d'écrivain sur cette chaire.
Oui, pour une fois, on parle de littérature. Moi, je pense même que... Une certaine presse africaine faisait des lapsus. Il disait le premier écrivain noir. Voilà. Je disais non. Le premier écrivain, point, qu'il soit noir, japonais ou quoi.
Exactement. On a lu, hein, ça. C'est vrai
voilà.
Qu'on a
je
lu.
Pense que c'est aussi peut-être regarder ce qui se fait aux États-Unis. Moi, j'ai été embauché aux États-Unis, non pas parce que j'avais fait un doctorat extraordinaire en littérature, c'est parce que j'étais écrivain. C'est pour ça que dans la leçon inaugurale, je disais que j'étais un écrivain qui était devenu un professeur et non un professeur qui était devenu un écrivain. C'est essentiel parce que quand vous enseignez la théorie, il faut aussi aller vers les praticiens. En France, on a tendance à considérer parfois les écrivains comme ceux qui viennent agrémenter les salons du livre. On vous fait plaisir, écoutez. Jusqu'alors, j'ai beau avoir un lectorat, j'ai beau passer dans toutes les émissions, il y en a qui m'appellent pour dire, attention, c'est pour votre promotion, c'est pour vous faire connaître. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et je dis, ben, il n'y a pas de problème, je vais venir puisque vous allez me faire connaître. Et donc, l'écriture n'a plus finalement d'enjeu dans la nationalité. Aujourd'hui, celui qui parle de nationalité confond. Il est plus dans le côté du chauvinisme, du nationalisme. Moi, je suis celui qui pense que pour parler d'un territoire, il faut être dans l'espace peut-être du patriotisme. Vous aimez votre patrie, mais vous n'allez pas imposer l'idée
un
de la nation.
Un imaginaire
l'idée,
national.
Voilà, l'idée de la nation à des gens dans une période où la mobilité est devenue la carte, le GPS.
Mais où malheureusement les nationalismes se portent bien. Hein,
voilà, ils se portent bien et on s'enferme même. Il y en a qui tentent de quitter l'Europe, qui le réussissent.
Vous avez publié il y a quelques mois au Seuil, Alain Mabankou, un roman extrêmement chatoyant, séduisant, mélancolique aussi, hein, dont le titre est Petit Piment. Et dans ce livre, vous renouez avec le territoire, vous en parliez, de votre enfance, Pointe-Noire, donc la ville portuaire du Congo où vous avez grandi. On y suit la formation et les élans vitaux de votre héros au nom extrêmement long que je vais vous laisser dire.
Tokumi Sanzambe Pomose Amoyindo Abotami Namboka Yabakoko.
Ce qui veut dire, en lingala...
Rendons grâce à Dieu, car le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres.
Voilà, c'est en lingala. Voilà. Pourquoi cette idée de Moïse noir?
Parce qu'il y a toujours, chez nous, dans mon pays, le Congo, l'idée que quelqu'un viendrait sauver la catastrophe du pays. Et en général, quand vous avez quelques signes qui sont comme des signes du destin... Dans le genre, c'est un enfant qui a été abandonné, qui a été ramassé, élevé par une grand-mère de 92 ans, qui elle-même au bord de la tombe, mais laisse des volontés en disant que voici l'homme, hein, un peu comme dans la Bible. Donc, mon personnage, Petit Piment, ayant été ramassé, vivant dans l'orphelinat, n'ayant pas de nom, eh ben, le prêtre lui a donné ce nom de Moïse. Et d'ailleurs, c'est le titre qu'on retient dans la traduction anglaise « Black Moses », le Moïse noir. On lui donne ce nom, rendons grâce à Dieu, Moïse, le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres. Et il va intégrer cela dans son imaginaire et tous les actes qu'il posera iront dans le sens justement de ce sauvetage.
Je vivais ma liberté de chien errant dans une ville qui semblait tout broyée, raconte Petit Piment, qui va trouver le salut chez Maman Fiat 500, mère maquerelle généreuse. C'est une sorte de Gavroche ou un Oliver Twist, mais au Congo, et dont on va suivre les aventures avec bonheur, avec fièvre aussi, puisque la politique s'en mêle. Et puis, Alain Mabankou, on y reviendra à Petit Piment. Vous publiez parallèlement, si je puis dire, votre leçon inaugurale donc du Collège de France, L'être noir des ténèbres à la lumière, c'est chez Fayard. Vous y appelez les écrivains noirs d'aujourd'hui à penser et vivre leur identité artistique en pleine lumière. On pourrait se dire, pourtant, Alain Mabankou, que puisque cette invitation, même cette injonction est prononcée depuis une chaire du Collège de France, on peut se dire, ça y est, les lettres noires, et on va revenir sur cette expression, sont en pleine lumière. Finalement, le combat est gagné.
Je pense qu'il ne faut jamais se satisfaire d'une victoire. Il faut s'assurer que la victoire restera éternelle pour profiter aux générations qui vont venir. Ceux qui se satisfont d'une victoire instantanée ne comprennent pas ce qui leur attend plus tard. Donc, en allant même au Collège de France, c'est vrai que je ramenais une partie de l'histoire de la littérature écrite en français, une partie qui manque dans les annales de la littérature même française, puisqu'on a toujours tendance à découper. Si vous ouvrez la gare de Michard, on divise par siècle, nous ne sommes pas à l'intérieur, peu importe. Et pourtant, c'est des textes écrits en français, publiés dans les grandes maisons d'édition françaises, les mêmes.
Oh, quand même, Césaire, Senghor, tout ça.
Oui, Césaire, Senghor, mais même bien avant 1921, René Maron qui publie, c'est quand même chez Albin Michel, puis d'autres, les Ousmane Sossé qui vont publier dans d'autres grandes maisons d'édition, Camara Lai qui publie chez Point en 1954. Mais quand on fait l'anthologie, par exemple, du roman français, vous ne verrez pas Camara Lai.
Oui, mais alors justement, quand on vous regarde tous les deux, donc on a le Collège de France et l'Académie française. Réunit presque une sorte de quintessence de ces deux vénérables institutions. Parce que c'est valable aussi pour vous, Daniela Ferrière. Vous êtes maintenant totalement, vous qui étiez tous les deux périphériques, en fait, hein, vous parlez souvent des marges, vous voilà vraiment au centre. Et on a l'impression que le combat, il est gagné par chaos. Collège de France, Académie française, quand même, ça pèse.
Oh, je ne sais pas si où est l'intérêt de cette histoire. Et parce que le combat a été gagné il y a très très longtemps, et j'ai eu cette enfance heureuse, élevée par ma grand-mère dans une petite ville d'Haïti, à Petit Gouave. Je crois que c'est là que tout s'est passé, quand toutes ces femmes, mes tantes, ma mère et ma grand-mère, m'ont entouré d'un cercle de tendresse pour me protéger de la dictature de Duvalier. C'était un combat beaucoup plus fort que l'Académie française.
Non, mais vous-même disiez.
Et c'est de cet angle-là, de cette tasse de café de ma grand-mère que j'ai puisé pour écrire ces livres. Le seul vrai combat, c'est la littérature. Parce que ce n'est pas une décision du Collège de France ou de l'Académie française de dire il est temps de prendre un noir, sinon, bon, ils sont en retard de 400 ans. C'est tout simplement parce que j'ai écrit ces livres. Et pour moi, c'est moins bien important que le moindre de mes livres.
Sauf que vous disiez que vous aviez republié, que vous éprouviez une satisfaction aussi à avoir aujourd'hui republié ces premiers livres dans un grand format. Donc il y a ce côté.
Ah non, c'est la littérature.
C'est
je parle
la littérature.
Du livre.
Bien sûr.
Je parle du livre et du lecteur. Je ne renie pas. Je suis bien content. Je suis content aussi pour Montesquieu d'avoir un tout jeune homme qui se trouve sous son fauteuil. On parle de lui depuis. Mais je veux dire, quand je disais que j'éprouvais de la satisfaction à être avoir ces livres là revenir. Je parle du livre lui-même. Je parle pas de la décoration. Je parle du livre lui-même.
D'accord. Mais si on reprend un texte que vous aviez signé tous les deux en mars 2007, un manifeste dans Le Monde pour une littérature monde, on lisait ces phrases. Combien d'écrivains, donc des phrases que vous avez signées, tous les deux, combien d'écrivains de langue française pris entre deux ou plusieurs cultures se sont interrogés alors sur cette étrange disparité qui les reléguait sur les marges, eux, francophones, entre guillemets, variante exotique tout juste tolérée. Est-ce que quand même l'institution littéraire, quand même, que sont, ou culturelles, que sont le Collège de France ou l'Académie française, n'ont quand même pas joué un rôle dans ce qui est plus qu'une tolérance, puisque vous utilisiez le mot de tolérer, mais bien une célébration, voire une centralisation de ces marges?
Oui, on peut voir ça dans ce sens. Mais en même temps, il ne faut pas que ça soit comme si, une fois que Daniela Ferrière se trouve à l'Académie française et que je suis au Collège de France, qu'on pense que les symboles ont suffi. Ce qui importe, c'est ce qui se passe à côté. Je veux dire qu'il faut la même considération pour un écrivain comme Abdourahmane Ouaberi, pour un écrivain comme Fiston Mwanza Mungila, pour un écrivain comme Emmanuel Dongala ou Mackenzie Orcel.
C'est-à-dire que le combat continue pour les autres.
Non, mais ça sera bien.
Daniela Ferrière.
Ça sera bien quand on acceptera à l'Académie française un mauvais écrivain noir. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais écrivains blancs. J'ai écrit 26 livres, je suis traduit dans 15 langues, je travaille sans cesse et depuis 35 ans. On m'accepte à l'Académie française, je suis très heureux, mais je ne vois pas matière à sauter au plafond. Et si l'Académie s'enorgueillit ou si la France s'enorgueillit d'une telle situation, il y a problème. Il y a problème. On devrait dire plutôt, il était temps. Enfin.
C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il faut garder de la négritude, justement, ce terme-là, théorisé par Aimé Césaire et Senghor? Est-ce que c'est encore, justement, à vous entendre, je me demande, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut, quand on est écrivain, en garder de cette théorie, de cette idée? Et qu'est-ce qu'il faut en rejeter?
En général, c'est l'utilisation contemporaine qu'on fait de cette négritude. La négritude est un mouvement qui avait été placé dans le temps, hein, dans ces années 20, 30, jusqu'à l'avant-guerre, jusque pendant la guerre. C'était un mouvement pour redonner, en quelque sorte, au peuple noir la fierté de leur civilisation, l'appartenance à une culture, à des cultures venues d'Afrique qui n'avaient rien à envier aux autres, et puis le refus de cette domination du monde par une certaine civilisation.
Mais aujourd'hui,
évidemment, les temps changeant, beaucoup ont pris la négritude pour en faire parfois un objet d'obscurantisme, d'enfermement. C'est-à-dire que c'est la négritude de rejet. C'est-à-dire que je fais la négritude pour prouver aux autres que nous sommes le premier peuple, nous sommes ceci, nous sommes cela. La négritude a un aspect plutôt humaniste. C'est pour ça qu'il faut prendre la conception d'Aimé Césaire, qui est une conception très franche, directe et guerrière, et la conception de Léopold Sédar Senghor, qui, elle, en appelle à une certaine tolérance universelle. Et je pense aussi que on ne peut pas dire que nous sommes hors, c'est vrai, de la négritude, mais nous avons d'autres formes de combat qui correspondent aux injustices que nous avons aujourd'hui, et ces injustices ne s'attaquent pas seulement à une seule race.
Daniela Ferrière, Alain Mabankou, dans sa leçon inaugurale du Collège de France, parle certes de négritude, mais aussi de migritude. Ça m'a fait penser à ce que vous disiez, vous, dans votre discours de réception à l'Académie française. Vous parliez de ce que c'est qu'être un écrivain exilé. C'est un étrange animal que celui qui vit hors de sa terre natale, sa condition d'exilé lui permet d'ourdir une littérature qui n'est ni tout à fait de là-bas, ni tout à fait d'ici, et c'est là tout son intérêt. Est-ce que finalement la notion la plus importante aujourd'hui, ce n'est pas ça, cette idée de migritude plus que de négritude?
Ah mais totalement, totalement, c'est la chose qui est arrivée dans le monde la plus décisive, et les gens bougent. Et bon, on a remarqué que c'est les mêmes qui bougent massivement, c'est-à-dire les plus pauvres et les plus délaissés, et qui ont changé d'une certaine manière la conception du voyage, la conception du déplacement. On ne se déplace plus pour aller pour une quinzaine de jours, pour un mois, dans un autre espace. Ça ne compte pas. Et ce qui compte maintenant, c'est les gens qui vivent 40 ans, 50 ans et dans un nouvel espace, dans cette condition d'infériorité, et souvent, et une condition d'infériorité aussi, et qui crée une nouvelle culture, puisque ce qui est intéressant avec la condition d'infériorité, c'est que vous êtes un élève sans professeur. on ne vous dit rien. Vous devez savoir qu'il fait moins de 30 degrés à Montréal. Vous devez savoir qu'il fait telle situation et à Paris. Et personne ne vous explique quand il y a grève, quand il y a quoi que ce soit. Vous devez tout apprendre et sans aucun élément, sans aucun repère. Et ça va très vite. Ça excite l'imaginaire, ça excite l'intelligence. Et en plus, vous gardez un peu de votre culture. Donc vous avez une double culture. Et pendant longtemps, on a fait comprendre à ces gens et qu'ils avaient quelque chose de brouillon, qu'ils étaient devenus des êtres brouillons, qui n'étaient pas formés ni ici ni là-bas, jusqu'à ce qu'on commence à comprendre que cette situation-là a créé les individus les plus cultivés de la planète et des individus qui peuvent ne pas pouvoir lire dans la langue du nouveau pays où ils se trouvent et qui sont parmi les plus cultivés parce qu'ils ont une culture double. Ils sont doublés, ils connaissent la vie quotidienne du pays qu'ils ont laissé et ils sont formés culturellement, non pas forcément par les livres, mais par la réalité quotidienne du pays et où ils se trouvent. Il y a un proverbe haïtien qui dit ce que la chatte a appris à son chaton, eh bien la rate l'avait très longtemps apprise à son raton. C'est-à-dire il faut toujours une longueur d'avance. Donc il est temps de célébrer cette longueur d'avance et de dire que c'est une forme de culture, c'est une addition.
Vous êtes écrivain, le rapport tous les deux, le rapport à la langue évidemment est fondamental. Dans ce texte que je citais tout à l'heure pour une littérature monde, il y avait une phrase aussi sur laquelle je voudrais vous interroger. Soyons clairs, l'émergence d'une littérature monde en langue française consciemment affirmée, ouverte sur le monde transnational, signe l'acte de décès de la francophonie. Personne ne parle le francophone, ni n'écrit en francophone. La francophonie est de la lumière d'étoiles mortes. Vous n'êtes donc plus des écrivains francophones, on en prend acte. C'est terminé.
Moi, je pense que ça dépend de ce qu'on met à l'intérieur d'écrivains francophones. Bon, prenons un exemple. Il ne viendrait pas à l'esprit de qui que ce soit de dire, d'appeler Houellebecq écrivain francophone, d'appeler Christophe Honneau-Debio écrivain francophone. Pourtant, Houellebecq et Honneau-Debio, vous êtes des francophones parce que la France est un membre de la francophonie au même titre que le Congo-Brazzaville, au même titre que le Gabon, etc. Nous sommes à l'intérieur. Et quand on regarde même, comparé au nombre de gens qui parlent la langue française à l'extérieur de la France est minoritaire. Donc si on considère que la francophonie, c'est la continuation de la politique étrangère française par des moyens détournés, nous ne sommes pas ces francophones-là. Si on considère que la francophonie est un vocable qui sert à balkaniser les écrivains pour rappeler qu'ils viennent des côtés ensoleillés et qu'ils viennent enrichir votre langue comme ils disent.
Vous le dites vous-même, danser, faire danser la langue.
Voilà. Donc, je ne souhaite pas être dans cette sorte de francophonie. Il nous faut une francophonie culturelle dans laquelle nous aurons pour partage cette langue française qui n'appartient plus qu'à la France.
Dany Laferrière.
Bon, vous savez, naturellement, on devrait être en train d'écrire, un écrivain c'est cela, et on passe notre temps, peut-être, c'est notre forme de culture, à se définir, à se contre-définir, à essayer, parce qu'on a pris la décision de dire que l'écrivain est d'abord un intellectuel, et en France, où on a l'habitude d'ailleurs de converser, d'analyser et la nourriture que nous sommes en train de manger, de parler du vin que nous sommes en train de boire. C'est une manière intéressante, elle est intéressante, mais elle est épuisante.
Alors, Dany Laferrière, on va plonger dans ces mythologies américaines. C'est le titre de ce grand format que vous publiez. On en parle, et on parlera peut-être pas de votre vin totalement, on va peut-être s'arrêter avant. Après avoir écouté votre premier choix musical, vous avez choisi Little Girl Blue de Nina Simone. Your little fingers.
happy little girl blue. Sit there, count the raindrops falling on you. It's time you knew all you can ever count on.
Little Girl Blue de Nina Simone, c'est le choix de Danny Laferrière. Il publie Mythologie américaine chez Grasset. Pourquoi ce choix musical, Danny Laferrière ?
D'abord parce que c'est la première personne presque que j'ai croisée en arrivant à Montréal. Je venais d'arriver en plein Jeux olympiques et quelqu'un m'a invité à écouter un petit concert qui se tenait dans un restaurant au sommet d'un escalier qui s'appelait Rising Sun. Je suis rentré et j'ai vu une femme en train de chanter avec un verre de vin dans la main droite, une cigarette dans la main gauche et en regardant par la fenêtre. J'ai l'écrit dans plusieurs livres et je suis tombé dans cette nostalgie, dans cette douceur déchirante. Et puis je me suis toujours dit, c'est comme ça que j'aurais aimé écrire. C'est-à-dire que les mots ne disent plus rien, mais tout simplement la sensation, j'ai pas ce style, mais j'ai pas je suis pas cette unhappy little girl blue. Mais je trouve aussi, et dans cette Amérique que je décris, cette Amérique du Nord, qu'il faut rappeler, et cette élégie, et cette tendresse déchirante de Nina Simone.
Alors vous publiez donc ces Mythologies américaines qui rassemblent en un seul ouvrage vos premiers romans, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit, Faite chez Oki, un inédit aussi, Truman Capote au Parc Hôtel. On est embarqué dans le périple de l'auteur du Canada aux États-Unis jusqu'au Japon, au fil de votre écriture, qui est à la fois dure, vous le rappeliez vous-même, tendre aussi, très très ironique, et surtout une grande puissance verbale. Ceci n'est pas un roman, y lit-on. Je le dis en pensant à Magritte, dessinant une pipe et écrivant en légende « Ceci n'est pas une pipe ». J'écris ce livre avec des notes prises sur le vif, un peu partout en Amérique du Nord. Mais on découvre surtout un Danny Laferrière, un jeune homme en colère, très « angry young man ». J'aimerais qu'on vous entende lire un extrait. Vous êtes, le narrateur, pardon, est dans une émission, on le questionne, sur son propre roman.
C'était mon premier roman, donc on m'avait jamais questionné, on m'avait jamais, j'étais jamais passé à la radio au Québec, et puis aussi je prévoyais ce qui allait se passer, puisque quand le livre est sorti, la même personne, Miss Bombardier, m'a invité à son émission. Et m'a posé la première question qui ressemble exactement à celle qui a dans l'émission. Miss Bombardier se tourne maintenant vers moi. J'ai lu votre livre, j'ai bien ri, mais vous n'aimez pas les femmes, m'a-t-il semblé. Réponse, les nègres aussi. Miss B sourit, j'avais gagné la première manche. Excuse-moi, c'est parce que tout cela vient d'une interview que Madeleine Chapsal avait fait avec Chardon, et elle voulait un peu le coincer, un vieil un peu fasciste, un peu et anti-sexiste, tout ça. Elle lui a dit, mais Monsieur Chardon, à vous lire, on voit bien que vous n'aimez pas les femmes. Et il s'est penché vers lui et il lui a dit, mais qui les aime, madame? Alors, mais encore, mais je dis que quand on commence à déballer les fantasmes, chacun en prend pour son compte. Je vais vous faire remarquer qu'il n'y a pratiquement pas de femmes dans ce roman, mais des types. Il y a des nègres et des blanches. Du point de vue humain, le nègre et la blanche n'existent pas. D'ailleurs, Chester Himes dit que ces deux-là sont une invention de l'Amérique, au même titre que le hamburger et la moutarde sèche. Et j'en donne ici une version, disons, personnelle. Tout à fait personnel. J'ai lu votre roman, ça se passe au Carré Saint-Louis, c'est brièvement l'histoire de deux jeunes noirs qui passent un été chaud à draguer les filles et à se plaindre. L'un est amoureux du jazz et l'autre de littérature, l'un dort à longueur de journée ou écoute du jazz en récitant le Coran, l'autre écrit un roman sur ce qu'ils vivent ensemble. C'est exact. Je voudrais vous demander quelque chose. Allez-y. Est-ce vrai? Quoi? Est-ce que cela vous est vraiment arrivé? Je vous demande ça parce que dans la réalité, vous habitez encore au même endroit, au Carré Saint-Louis. Vous avez un ami chez vous et vous êtes un écrivain comme votre narrateur. Ce n'est qu'une pure coïncidence. Mais soit, votre roman est le premier véritable portrait de Montréal venant d'un écrivain noir. Avouez tout de même que vous avez la dent dure. Ah bon? Et ça fait notre plaisir parce que on nous avait trop longtemps habitués avec des noirs un peu plaintifs. Mais ceux de mon roman n'arrêtent pas de se plaindre, eux aussi. Oui, mais pas sous le même tempo. C'est plus coriace, c'est plus sec, plus pugnace. Ils n'arrêtent pas de se plaindre, c'est vrai. Mais ils savent cogner aussi, et avec un humour qui emporte tout. Mais c'est comme ça dans la vie. On parle court, on en donne. Et ils le font avec de drôles d'armes. Généralement, les Noirs font appel à l'Afrique dans ce cas-là. Vos personnages, non. Pourquoi? Mais parce que ce sont des Occidentaux. Mais ils sont musulmans. Oui, leur foi appartient à l'islam, mais leur culture est totalement occidentale, si vous voulez. Allah est grand, mais faux est de leur prophète. De curieux musulmans, mais c'est la réalité, vous savez. Dans une rencontre entre un noir et une blanche, ce qui prédomine, c'est le mensonge. Mais vous n'êtes pas en train, disons-le, de trop noircir ça. Mais écoutez, hier soir, j'étais dans un bar du centre-ville. Il y avait à côté de moi un noir et une blanche. Je connaissais le type, c'est tout juste s'il ne disait pas à la fille qu'il était amateur de chair humaine, qu'il venait de la Bourse, que son père était le grand sorcier de son village. Bon, on connaît la musique. Et moi, je voyais la fille hocher la tête, en extase devant un vrai de frais, l'homme primitif, le nègre selon National Geographic, Rousseau et compagnie. Je connais très bien ce type, et je sais qu'il vient non pas de la Bourse, mais d'Abidjan, l'une des grandes villes d'Afrique, qu'il a longtemps vécu au Danemark et en Hollande, avant de venir s'installer à Montréal. C'est un urbain et un occidental, mais cela... Il ne l'admettra devant aucune blanche pour tout l'ivoire du monde. Devant le blanc, il veut passer pour un occidental, mais devant la blanche, l'Afrique doit lui servir en quelque sorte de sexe surnuméraire. Et la fille, oh, en extase, je vous dis, elle avait trouvé son Afrique, son primitif. Eh bien, vous avez l'œil dur, mais c'est l'époque qui est dure, ma chère.
Merci, Damien Ferrière. Un extrait de Mythologie américaine. J'ai choisi ce passage... Parce que, précisément, il montre l'écrivain en train d'échapper au piège de la définition. Et tout à l'heure, on vous sentait prêt à bouillir. En fait, vous ne supportez plus maintenant d'avoir à vous définir autrement que par les mots que vous mettez dans ces pages.
Avant même d'être en présence de cela, c'est-à-dire de passer à la télévision, dans les journaux, pour qu'on me pose ces questions-là, dans les festivals, je les prévoyais. Et j'essayais déjà de les attaquer, et ça fait 30 ans.
Oui, en même temps, Daniela Ferrière, est-ce que vous n'êtes pas responsable vous-même, et c'est à la fois louable, on l'a vu avec ce passage, hein, quand vous jouez avec tous les clichés hein, que vous mettez en avant, notamment le mot nègre qui est très très présent, là vous parlez même du sexe surnuméraire, les titres, vous avez longtemps raconté comment ce titre, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, vous avez lu des interprétations diverses dans tous les pays, pourquoi jouer à ce point, alors qu'évidemment ça peut aussi vous enfermer dans cette identité entre guillemets avec le mot nègre. Et je vais vous citer un autre passage aussi ou plutôt je vous laisserai le lire tout à l'heure si on a le temps, mais vous semblez le triturer, ce mot nègre, le lancer à la face du lecteur pour essayer de lui faire perdre de sa force, et en même temps il est là, il s'impose pratiquement dans de nombreux titres de la Ferrière, de nombreuses phrases de la Ferrière, et c'est même l'exergue de comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, un extrait du Code Noir de 1685, le nègre est un bien meuble.
Mais c'était mon sujet. Mon sujet, c'était nègre, et puis nègre sexuel. Et donc, c'était mon premier livre aussi. Mais si on a lu ou écouté attentivement cet extrait que je viens de lire, c'est pas du tout un éloge de la question nègre, au contraire. Parce que je riais, j'étais un jeune homme joyeux, et en colère, mais avec une joie, une sorte de, quelque chose d'absolument vivant et excitant. Et parce que j'avais là un objet que personne ne voulait toucher, et que j'allais écrire 200 fois le mot nègre, et dans un livre, et jusqu'à le vitaliser, jusqu'à le débander, si l'on peut dire.
Oui, vous lui dites, lui faire perdre tout son souffle. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Mabankou, justement, de cette utilisation ironique, grinçante, pléthorique aussi du mot nègre par Daniela Ferrière?
Mais moi, je pense que c'est lorsque on a utilisé le mot nègre, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Le mot date de très longtemps. On le trouve même chez Pline l'Ancien, de très très longtemps là-bas. Mais le problème, c'est que le mot nègre n'était pas utilisé à cette époque-là pour incarner une certaine séparation raciale. Mais aujourd'hui, quand j'entends le mot, ça ne m'a jamais fait peur. J'ai aussi un titre qui possède le mot nègre, Les petits-fils nègres de Vercingétorix. Et quand j'écris dans mes romans, on trouve toujours le mot nègre, que ce soit dans Black Bazar, que ce soit dans Vert Cassé, il y a le mot nègre qui est à l'intérieur.
Mais précisément, Daniela Ferrière, est-ce que le fait de jouer, hein, on a compris que vous jouiez avec ce mot-là, est-ce que c'est pas ça qui fait que depuis 30 ans, à chaque fois, ce mot chatoie tellement que évidemment, il vous revient en boomerang?
Non, il est excitant, il est magnifique, et il possède un concentré de choses extrêmement explosifs. Il y a là-dedans, et c'est pour ça que j'ai mis en exergue cette phrase, et c'est du Code Noir, j'ai failli dire, du Coran. Et cette phrase
il y a
du
beaucoup,
Code Noir.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de citations, beaucoup de
sourates. Aussi là-dedans, et bien avant Salman Rushdie. Et c'est pour ça que j'ai mis cette phrase-là, parce qu'il y a du souffle là-dedans. Moi, je suis un écrivain, j'aurais bien aimé et ne pas commencer avec ça, mais je trouve ce mot nègre par terre, je le ramasse, je le mets dans ma poche, voilà. je l'emporte avec moi. Mais quand
vous
même...
savez que c'est ce que disait Verlaine du mot décadent.
Non.
On lui lançait décadent, il dit voilà, je l'ai ramassé par terre et je l'ai brandi.
Absolument, exactement. Je viens de le dire sans le savoir. Mais quand même, je me suis arrêté et en 91, et j'ai écrit un livre sur ma grand-mère, L'odeur du café. Et après, ça va être Le goût des jeunes filles, Le charme des après-midi sans fin, Pays sans chapeau, L'énigme du retour. Et donc, il y en a plein comme ça, Chronique de la dérive douce, Tout bouge autour de moi. Il y a quand même des sujets différents. Et dans tous ces livres, le mot nègre ni le mot sexe ne sont prononcés. Et pourtant, je reste le jeune homme couvert de soufre du début. Je ne renie pas. Si ça excite les jeunes filles, je ne renie pas. Mais j'ai tenté quand même de faire autre chose, on peut le dire.
Et à la fin, on peut le dire, on le dit. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Romain, hein, cet écrivain haïtien que vous adorez, qui explique qu'on reste un natif natal et qu'on a finalement l'origine aussi, le pays où l'on est né, dans les cheveux. Cette formule est très très belle.
Je crois
que vous
absolument.
La connaissez par cœur, Dany, vous allez nous la donner. Sinon, je l'ai là. Si l'on est d'un pays, si l'on y est né, comme qui dirait natif natal, eh bien on l'a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de ces arbres, c'est une présence dans le cœur ineffaçable. Donc on peut pas devenir un écrivain japonais, Dany La Ferrière.
Oh, au contraire, je le dis trois fois. Et c'est au contraire, parce que...
Là, c'est quatre fois, là.
C'était le nouveau. Et parce que, précisément, on n'a pas à s'occuper de soi. Si on est ceci, on n'est pas à s'en occuper. Cette puissance d'identité est tellement forte qu'elle nous propulse ailleurs. Si c'est pour nous enfermer, c'est une inquiétude.
Voilà, donc il faut...
Je n'ai aucune inquiétude. La planète, c'est déjà pas assez.
Voilà.
Donc...
Alain Mabankou.
Si j'ai écrit aussi la leçon inaugurale pour le Collège de France, c'était pour décomplexer les gens quant à cette utilisation du mot nègre. C'est très important de le savoir. Chaque fois qu'on utilise aujourd'hui le mot nègre, il est circonscrit dans un temps et dans des espaces donnés.
Sauf aux États-Unis.
Sauf
nigger, beaucoup vous enseignez là-bas.
Nigger, on ne peut pas le dire aux États-Unis, on ne peut plus. Voilà.
Dans le rap, on le dit.
C'est-à-dire,
on s'appelle entre soi.
Mais entre Africains, Dany ils peuvent
hoche
faire
la
des
tête.
Choses.
Ouais.
Voilà, tout à fait. Ouais. Les Noirs à Harlem vont s'appeler nigger, mais si vous êtes, je ne sais pas, un blanc ou un asiatique, vous arrivez pour dire oh nigger, how are you? Et là, ça sera la révolution totale.
Exactement.
Ça arrive. Ça dépend de comment vous utilisez le mot. Tous les mots. Même les plus gentils deviennent destructeurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés avec courtoisie.
On va parler tout ça avec vous, Alain Mabankou. On va d'abord écouter, non pas votre choix musical, figurez-vous que c'est Dany La Ferrière qui a choisi pour vous.
Ah ben, c'est ça la gémellité. Hein,
voilà. Donc, voilà. Alors, il a choisi en même temps, on comprend, vous n'auriez pas pu oser le choisir, puisque ça s'intitule Black Bazar, c'est interprété par Souleymane Diamanka. Et les paroles sont d'un certain Alain Mabankou.
Ben c'est moi qui ai écrit les paroles, voilà.
Corsique Podanami, Djangine Kamjalia, Kominuire Douadjabi Djeneba. Du fin fond du Fouladou au Congo Brazza, l'africaine école buissonnière des beaux-arts. Et comme par hasard, la chanson s'appelle Black Bazar. Tu crois te lever le matin, c'est le soleil qui se lève. Laisse dans les vestiaires ton baratin, la vie c'est pas du rêve. Pour pas rater ton train de vie, fallait prendre le précédent. C'est une question de survie, que tu sois pour ou contre. Le temps c'est de l'argent comptant. L'homme inventa la montre, mais Dieu créa le temps. Justice blanche, misère noire, la bête noire c'est toi. C'est écrit noir sur blanc, long sera ton chemin de croix. Et ta peau restera noire malgré ton masque blanc. Sorti droit de la Black Mafia, premier sur la blacklist. Paumé dans le blackout, je joue au blackjack. J'écoute Paint in Black, les doigts sur le Blackberry. Je flingue le black cowboy, bien coiffé, bien rasé.
Black Bazar, Souleymane Diamanka et paroles d'Alain Mabankou. Voilà, Alain Mabankou, parolier. Hein.
Oui, ça arrive que de temps en temps, on se laisse un peu aller. J'en ai écrit quelques-unes, dont celle-là, Black Bazar, tirée aussi de mon propre roman. Oui.
Alors, vous avez publié quelques mois Petit Piment. Vous étiez d'ailleurs venu en parler sur France Culture, les tribulations d'un jeune orphelin de Pointe-Noire au Congo. Au moment d'un changement de régime, c'est l'arrivée d'un socialisme qui veut construire un homme nouveau et qui se retrouve, ce jeune homme, devoir quitter l'orphelinat où il était heureux pour apprendre la vie des rues, trouver une protection éphémère chez maman Fiat 500 et ses 10 filles de joie, avant que le régime ne décide une opération d'éradication de la prostitution, ce qui fait basculer ce roman d'apprentissage dans un climat finalement d'une grande mélancolie. Et puis parallèlement, il y a ce livre que vous avez entre les mains, Alain Mabankou, qui est le texte de la leçon inaugurale que vous avez prononcée au Collège de France le 17 mars dernier, c'est bien ça. Lettres noires, des ténèbres à la lumière, c'est chez Fayard. Pourquoi avoir joué ainsi sur les mots lettres noires et ténèbres, avec presque une caractérisation morale, quoi. Ténèbres, on est dans le religieux.
Ben je voulais rester aussi dans ce clin d'œil à Conrad, le cœur des ténèbres, que l'Afrique de cette époque-là, ça voulait dire aussi qu'on a caractérisé par depuis longtemps les littératures venues du continent noir comme étant des littératures marginales. Ce qu'on oublie aussi, c'est que toutes les lettres qui ont été écrites sur le continent noir à l'époque étaient écrites par des colonisateurs, des blancs, ceux qui faisaient les expéditions coloniales. Donc, il n'y avait pas l'Africain à l'intérieur de ces lettres comme des acteurs.
Alors même qu'en Haïti, depuis 200 ans, c'était la liberté. Il n'y avait plus ce filtre. C'est ce qui
totalement. Et la liberté par les lettres aussi, parce que ce qu'on avait oublié qui a fait que l'armée de Napoléon a perdu la bataille, c'est qu'il y avait des esclaves lettrés arabes. Et donc, quand la guerre coloniale est arrivée, les informations étant de plus en plus précises, et on s'est demandé comment le bouche à oreille qui a permis à l'armée indigène, l'armée des esclaves, d'être aussi précis dans ces informations, eh bien, on a découvert que c'était, et ces esclaves-là étaient lettrés, ce qu'on appelle les marrons du syllabaire.
Alors cette caractérisation morale, Alain Mabankou, vous en parlez d'ailleurs dans ce texte. J'aimerais bien qu'on vous entende lire un passage.
En réalité, en 1530, année de la création du Collège de France, j'allais dire du Collège Royal, je n'existais pas en tant qu'être humain. J'étais encore un captif et en Sénégambie, par exemple, un cheval valait de 6 à 8 esclaves noirs. C'est ce qui explique mon appréhension de pratiquer l'équitation et surtout d'approcher un équidé, persuadé que la bête qui me porterait sur son dos me rappellerait cette condition de sous-homme frappé d'incapacité depuis la malédiction de Cham, raccourci que j'ai toujours combattu. Mais ce mythe de Cham, révisité selon les époques et les circonstances, a nourri en grande partie un certain racisme à mon égard et a servi de feuille de route à l'esclavage de Noirs dans ses dimensions transatlantiques et arabo-africaines. En même temps, de près ou de loin, il m'a sans doute inoculé la passion des mots, le désir de conter, de raconter et de prendre la parole. Si ma couleur de peau, que je ne troquerai pour rien au monde, est absente des textes religieux rapportant cet épisode, on la retrouve curieusement chez Origène, le père fondateur de l'exégèse biblique, qui introduisit au IIIe siècle l'idée de la noirceur du péché. Être noir sera par conséquent un destin pour des millions d'individus parce que cette couleur, jetée en pâture, cousue de fils blancs, était devenue une posture face à l'histoire. Le combat des femmes et des hommes est pris de liberté, d'égalité, de fraternité, j'inclus les écrivains et les professeurs qui m'ont précédé, a contribué à nuancer les choses. Pourtant, je suis le même homme. J'ai gardé mon nez épaté et vous avez depuis longtemps dépassé les clichés des XVIe et XVIIe siècles où, ainsi que le note François de Negroni, certains abbés professaient que les Noirs n'étaient en rien fautifs, ne devaient leur couleur qu'au soleil de leur latitude, qu'ils auraient une meilleure odeur s'ils vivaient dans le froid et que si les mères africaines cessaient de porter les enfants écrasés sur le dos, les nègres auraient le nez moins épaté.
Merci Alain Mabankou. On était presque au Collège de France, là, voilà, avec votre voix. Cette malédiction de Cham, vous pensez qu'elle pèse encore sur les écrivains?
Je pense pas que nous devons la déconstruire. Beaucoup oublient que la plus honteuse même application de cette malédiction de Cham s'est faite au XXe siècle avec le génocide du Rwanda en 1994. En essayant d'expliquer justement que tel peuple était sauvé de cette malédiction et ce peuple n'avait pas été maudit et que ce peuple serait les Tutsis, et ça a créé une certaine fierté parfois d'un côté et une frustration de l'autre. Nous continuons toujours à subir les conséquences de la malédiction de Cham de manière parfois inconsciente. Quand vous avez un Africain qui pense que en France, il lui est impossible de réussir parce que tout a été verrouillé, parce que il est noir, parce qu'il est né avec la mauvaise couleur de peau, à ce moment, je sais que j'ai encore du travail à faire, parce que je sais que si ce même Africain travaille tous les jours, c'est vrai qu'il travaillera le double, eh ben, il finira par gagner le triple.
L'être noir, c'est l'expression qui vous va, Dany Laferrière, c'est l'expression d'Alain Mabankou.
Le mot noir.
Bien sûr.
Et quand j'ai vu ça, j'étais
vous avez bondi.
Un peu choqué du premier. Et quand il a expliqué l'affaire des ténèbres à la lumière par rapport au lien littéraire au cœur des ténèbres et de Conrad et tout cela, j'ai compris. Mais j'ai compris aussi surtout que Alain avait senti le poids de ce discours. C'est un discours extrêmement important qu'il devait prononcer là. Vous savez, ça nous arrive, nous sommes pétillants de santé, d'humour et tout, mais il y a des moments quand même qu'il faut marquer et par leur sonalité aussi, parce qu'il y a des gens qui attendent ce moment-là. Et là, quand il a ramassé dans son titre ces choses presque manichéistes, et c'est ce que vous avez parlé de forme morale, ces grandes entités, et je me suis dit, bon, Alain prend ce discours extrêmement au sérieux, et je vais voir maintenant comment il va glisser l'humour à l'intérieur. Naturellement, dès la première phrase, quand il parlait que l'équitation, il voulait pas en faire, je voyais déjà pointer la tête et du jeune homme et plein d'humour. Et c'est un discours magnifique qu'il a prononcé. Il l'avait prononcé avec beaucoup de grâce aussi, bien habillé, et comme le dandy qu'il est. Non, mais c'est important d'arriver avec tout.
Ah ben, le dandy, c'est tout à fait littéraire.
Hein, tellement, bon, j'étais habillé aussi. On se fait tellement écraser et en même temps, arriver avec la sonalité et arriver avec soi-même, c'est très lourd, c'est très pesant. Et de passer c'est un seuil qu'on passe.
Je voudrais vous interroger tous les deux sur la langue quand même, puisque tout à l'heure vous avez eu des mots et on les a parfaitement compris, hein, très sévères sur ce qu'est la francophonie. Il n'empêche que vous avez choisi le français comme langue de vos romans. Or, Dany, on vous sent beaucoup plus finalement attiré par la sphère américaine, hein. Ça s'appelle pas mythologie américaine pour rien. Et je voudrais demander aussi à Alain Mabankou si finalement, en plus vous enseignez aux États-Unis maintenant, vous pourriez choisir pour ces, pour votre littérature une autre langue. Tous les deux, vous dites je. Vous dites je. Vous utilisez la première personne, hein, dans ces livres. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'était aussi une manière de se dégager de la tradition, d'affirmer justement une identité d'écrivain. Mais finalement, cette langue, vous auriez pu choisir une autre que la langue française.
Moi, je pense que pour on écrit dans la langue qui vous a conduit à la littérature. J'ai découvert la littérature, en tout cas écrite, par la langue française. Partant de là, tout mon univers d'écrivain s'est formé selon les codes et la discipline de cette langue. J'ai commencé à écrire en étant crispé. J'ai avancé petit à petit en m'éloignant un peu des codes parce que je savais désormais que je pouvais brûler un feu rouge, mais en faire une esthétique. C'est ce que j'avais fait dans Vers cassé, que je pouvais faire passer la fable africaine à travers une langue claudiquante. C'est ce que j'avais fait dans Mémoire de Porc-Épic, que je pouvais aussi parler de l'urbanité africaine en France, ce que j'avais fait à Black Bazar, ou prendre une allure enfantine nostalgique qui se retrouve dans Lumière de Pointe Noire, ou bien dans Demain j'aurai 20 ans, et maintenant Petit Piment.
Petit Piment. Donc,
c'est une langue que nous réinventons. Tout écrivain qui écrit dans une langue est forcé d'inventer sa propre langue. Même si la guitare a 6 cordes, ben on peut jouer toute forme de rythme. C'est à nous de trouver le rythme.
Dany Laferrière.
Ah ben pour la langue, je savais, je l'ai écrit, et que j'écris en français dans toutes les langues. Un peu ce que Alain vient de dire là, j'écris en français dans toutes les formes. Et j'écris en français dans toutes les langues. Quand j'ai écrit « Comment faire l'amour avec un accent fatigué » qui se passe en Amérique du Nord, même si à Montréal, ou cette grenade qui se passe vraiment aux États-Unis, dans tous les États, et j'ai dit à mon traducteur anglais, et il est américain, je lui ai dit, écoutez, vous allez traduire ça, ça va être très facile, puisque c'est un livre américain, et seuls les mots sont en français. Alors, il a pensé que c'était une blague, il pensait que c'était un paradoxe, et quand il l'a traduit, terminé, il a dit, c'est tout à fait vrai, mais c'est simple, je lui ai donné comme exemple. Et il n'y a pas que les mots qui forment une langue, qui forment une culture. Quand vous lisez Hemingway en français, quand vous lisez Tolstoï en français, vous savez, vous lisez du français, mais vous savez très bien que vous êtes en train de lire un écrivain américain ou un écrivain russe. Vous le savez bien. Ce n'est pas Mauriac. Hemingway n'est pas Mauriac. Vous le savez très bien. Donc c'est cela. Il y a pas. On peut écrire. L'odeur du café, par exemple, ou le charme des après-midi sans fin, ce
qui
sont des livres
chez Zulma.
Écrit en créole, d'une certaine manière. Mais c'est une langue extrêmement pure. La culture de ce livre est créole, comme par exemple cette phrase de Jacques Roumain que vous avez parlé tout à l'heure.
Merci beaucoup Dany Laferrière, merci beaucoup Alain Mabankou d'avoir participé à cette émission en direct du Marathon des mots à Toulouse. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Mythologie américaine de Dany Laferrière, c'est donc une anthologie, un regroupement en fait des premiers textes de Dany Laferrière. Alain Mabankou, Petit Piment, c'est le dernier publié au Seuil. Et puis votre leçon inaugurale du Collège de France, Lettres noires des ténèbres à la lumière. On se quitte avec un extrait, on a choisi en fait pour terminer, c'est le générique pardon de cette émission. Le temps des libraires, c'est Avril Ventura, Lénaïgue Cariou, Charlotte Roux et à la technique aujourd'hui Hervé Dubreuil, Stéphane Poitevin, Daniel Louison, Franck Malabry et le marathon des mots, c'est jusqu'à demain.